Le quart d'heure philo, enjeu philosophique d'une situation du quotidien.
Se torturer l'esprit, par Jean-François Crépel.
Les spectateurs ont encore bien ri ce soir, à la représentation des fourberies de Scapin, et en particulier devant la fameuse scène de la galère. Quoi de plus comique que ce personnage qui se lamente et qui pleure devant une décision qui lui est insupportable de prendre ? Payer 500 écus pour libérer son fils prisonnier d'une galère turque. Les spectateurs se souviennent encore de ce comédien excellent dans l'art de mettre en scène un personnage de plus en plus ridicule, à force de répéter la fameuse formule de Molière « Mais que diable allait-il faire dans cette galère ?» Quoi de plus divertissant, en effet. Mais pourquoi, en tant que spectateur, rions-nous particulièrement de ce genre de spectacle ? Il semble que nous y trouvons un soulagement, quelque peu lâche et hypocrite. Durant tout le temps que dure le divertissement théâtral, ce n'est pas nous qui nous trouvons déchirés par les tourments de la décision. Celle-ci, en effet, est en quelque sorte la galère de notre existence. Elle nous fait faire en permanence des choix qui nous embarquent au-delà de ce que nous avions prévu et nous enchaînent, en quelque sorte, pour l'avenir. Or, cette décision, ce soir, elle n'est pas pour nous. C'est avec délice que nous contemplons, de loin, en spectateurs désengagés, la drôle de scène de la galère, oubliant ainsi, pour un moment, nos propres galères existentielles. Nous les retrouverons bien assez tôt, tout à l'heure, car il faudra bien sortir du théâtre et retrouver par-delà la fiction le réel de l'existence. Réel qui engage parfois cruellement à faire soi-même ces choix déchirants qu'implique la décision. Ces choix, nous savons, parce que nous ne passons pas notre vie au théâtre, qu'ils nous amèneront vraiment à se torturer l'esprit pour répondre à ces questions angoissantes. Que faire ? Quelle décision prendre ? Que diable allait-il faire dans cette galère ? La formule fameuse, proférée par l'acteur comique, ne doit pas nous tromper. Se torturer l'esprit n'est pas seulement une attitude qu'on se plairait à mettre en scène pour susciter le rire de spectateurs, en leur donnant le change à eux qui sont venus pour oublier un instant les tourments de leur propre existence. L'acteur lui-même, qui joue la comédie ce soir, au théâtre, a pu le matin se découvrir un amour trahi. Ou c'est l'échec inattendu de la pièce qui lui fera bientôt peut-être éprouver une ambition déçue. Le moins qu'il puisse faire alors pour échapper à sa souffrance est de chercher dans les changements de personnalité que favorise son art un soulagement, au moins momentané. Mais une telle consolation est souvent refusée à la jeune fille délaissée par celui dont elle se croyait aimée et qui se trouve maintenant au bord du désespoir. De même, cette consolation n'est pas pour l'ambitieux qui rêvait d'être César ou rien et qui se croit désormais désespéré de n'y point parvenir. Tous ces exemples, ceux de l'acteur, de la jeune fille, du jeune ambitieux, témoignent donc au moins d'une chose. Ce qui fait souffrir les individus dans l'existence, ce n'est pas tant le travail, mais plutôt la passion d'exister. Passion que manifeste cette étrange et étonnante attitude que désigne l'expression « se torturer l'esprit ». Se torturer l'esprit, la formule, pour être complète, se doit d'ajouter le mot « inutilement ». Se torturer inutilement l'esprit, c'est en effet non pas peiner, faire des efforts pour réfléchir à la solution d'un problème, car cette réflexion pénible s'inscrirait alors dans un schéma utilitaire, qui en ferait un travail intellectuel. Quel que soit le résultat de ce travail, résolution du problème ou échec de cette résolution, on pourrait considérer qu'il y aurait alors du sens à l'effectuer. Que la peine éprouvée à l'accomplir n'était pas absurde, et que tout au plus sa réussite était hors de notre portée. Nous aurions alors peut-être gaspillé nos forces, certes perdu du temps, mais nous ne nous serions pas torturé l'esprit. On connaît la sinistre étymologie supposée du mot travail. Tripalium, le chevalet de torture. Mais pour que la peine du travail échappe à la malédiction de cette étymologie, il suffit finalement de peu de choses. Que ce travail montre sa fonction utilitaire, qu'on lui assigne un but productif, et le tour est joué. Ainsi, beaucoup de travaux, même avortés, rachètent en quelque sorte la peine qu'ils ont coûtée en mettant en avant cette utilité supposée. Or, tel n'est pas le cas quand nous nous torturons l'esprit. En effet, se torturer l'esprit, ce n'est pas seulement gaspiller nos efforts en pure perte, ce n'est pas non plus échouer à rendre utile une activité visant à remplir une fonction ou à atteindre un but. Comment comprendre alors, sans immédiatement faire une maladie délirante, une scène de comédie absurde et risible, une telle attitude ? Distinguons mieux le profil de celui qui est absorbé par une telle attitude. D'abord, il ne faut pas confondre la souffrance infligée par l'athlète à son corps avec l'attitude de celui qui se torture l'esprit. On comprend bien pourquoi le marathonien s'inflige la longue douleur de son parcours d'endurance. Il ne s'agit pas seulement pour lui de garder la forme, de sculpter un corps d'athlète. Il cherche à apprendre à lutter contre la fatigue, le découragement, et pour cela, il lui faut endurer des privations, des douleurs physiques intenses, des blessures parfois invalidantes, dont il ne se remettra jamais, peut-être, complètement. Il lui faut, en un mot, faire souffrir ce corps pour qu'il puisse le reconnaître dans son étrangeté. Car ce corps qu'on dit usuellement sien, son corps, chacun apprend dans l'existence à le reconnaître comme toujours improprement son corps, à le considérer finalement comme étranger à soi, et c'est donc à éprouver son union avec lui dans un étonnement toujours renouvelé que s'emploie le marathonien. La souffrance que le sportif inflige à son corps est ainsi dans l'épreuve révélatrice de ce que l'esprit n'est pas, et en même temps de ce à quoi ce même esprit est douloureusement cloué pour la vie, un corps. Cependant, si celui qui se torture l'esprit s'inflige, comme le sportif, une souffrance, il ne le fait pas, lui, en vue de susciter cet étonnement devant l'étrangeté corporelle. Il ne s'inflige d'ailleurs pas tant une souffrance physique qu'une souffrance morale. Certes, les humanistes soutiendront que la seconde, la souffrance morale, n'est jamais qu'une dérivation de la première, la souffrance physique. De quoi souffrirait ce jeune ambitieux, tourmenté, sinon d'un manque d'exercice ? Qu'il fasse un peu de sport, il retrouvera le bonheur de vivre. Et pour cette jeune fille amoureuse, un peu pâle de teint, ou pour cet acteur qui peine à jouer son rôle, quel meilleur remède que l'activité sportive ? Se torturer l'esprit, du point de vue humaniste, trouve toujours dans un mauvais ou sous-usage du corps, son explication. Le remède au mal est alors tout trouvé. Celui qui permet d'avoir, mens sana in corpore sano, un esprit sain dans un corps sain. Remède sportif qui serait alors doublement bénéfique, puisqu'on prétendrait par lui à la fois guérir l'esprit de ses troubles et transformer le sens de la souffrance physique en hygiène de vie. Pour ne pas nous torturer l'esprit, faisons du sport. Tel est le slogan humaniste qui semble résoudre les tourments de la décision. Le problème est que se torturer l'esprit ne correspond pas vraiment à cette attitude de jeune adolescent craignant d'user de ce nouveau corps que lui donne la nature. On peut faire l'hypothèse qu'il relève plutôt d'un mélange paradoxal d'activité et de passivité. On se torture l'esprit activement parce qu'on se sent coupable de chercher à persévérer dans un choix qui nous paraît manifestement absurde. Continuer à croire en un amour qu'on sait pourtant irrémédiablement perdu, s'entêter à la poursuite d'une ambition manifestement en pure perte. Mais on se torture aussi l'esprit passivement, parce qu'on éprouve péniblement la souffrance de devoir supporter ce choix absurde, de ne pouvoir répondre à la question « Pourquoi cette folie ?» alors que d'autres options apparaîtraient tellement plus raisonnables. On peut être ici attentif à la forme pronominale de notre expression, se torturer l'esprit, qui résume bien l'idée que dans cette étrange attitude, l'individu est à la fois activement son propre bourreau, celui qui fait souffrir, et en même temps la victime passive de la souffrance infligée. On comprend alors que la peine de se torturer l'esprit est loin de n'engendrer que la tristesse de ne pouvoir produire le moindre résultat. S'il en était ainsi seulement, la peine de se torturer l'esprit serait certes dommageable, mais ne mériterait pas son nom de torture. Il suffirait de parler magistralement d'efforts insuffisamment fructueux, de mauvais investissements, et l'interprétation de la souffrance ne relèverait alors tout au plus que d'une réflexion sur l'économie psychique, sur les tensions conscientes ou les conflits inconscients qui traversent et structurent l'esprit humain. Cependant, se torturer l'esprit ne s'explique pas seulement comme une dispersion d'énergie mentale ou le produit de névroses maladives. Cela s'éprouve comme l'expérience même de la passion d'exister. Être en effet à la fois la victime et le bourreau du même acte de torture, c'est éprouver en quelque sorte une double peine. Subir et infliger la souffrance. La jeune fille souffre de ne plus être aimée, mais elle s'en veut aussi de croire encore à la possibilité de cet amour. Elle s'inflige bien elle-même la souffrance qu'elle subit. Le jeune ambitieux souffre de ses échecs répétés, mais il se sent aussi coupable de ne pas pouvoir renoncer à son entreprise, de s'obstiner en pure perte au lieu de s'investir dans des actions plus honorables. Chacun, quand il se torture l'esprit, ajoute ainsi à la souffrance subie une souffrance qu'il s'inflige lui-même et qui fait qu'il ne peut se consoler en se considérant seulement comme la victime de cette souffrance, dont il ne serait alors pas le bourreau, pas plus qu'il n'est le bourreau d'une souffrance dont un autre serait la victime. Les passionnés le savent bien, la souffrance de la passion ne provient pas seulement de ce qu'on subit passivement la peine d'être vaincu par elle, car il n'y a pas toujours dans un combat de déshonneur à la défaite, mais surtout de ce qu'on se considère comme activement coupable de cette défaite, défaite dès lors toujours déshonorante. Je n'ai pas été à la hauteur, j'aurais pu mieux faire. Autant de souffrances morales, d'autant plus cruelles que c'est nous qui nous condamnons ici. Il y a enfin quelque chose d'humiliant dans cette expérience de se torturer l'esprit. Et c'est pourquoi le plus souvent, le passionné jette pudiquement un voile sur son mal honteux. C'est ainsi presque exclusivement en secret que nous nous torturons l'esprit. Et si nous aimons faire jouer la scène de torture par des comédiens au théâtre, c'est parce que eux excelleront dans l'art de recréer l'illusion esthétique et sauront nous libérer pour un temps de cette passion. Nous pouvons ainsi passer notre vie à purger notre passion de l'existence pour n'avoir pas à l'éprouver dans ses désagréments quotidiens. Et cela se fait le plus simplement du monde, en projetant cette passion sur la scène d'un théâtre, sur l'écran d'un cinéma, ou simplement en lisant un roman. Sans parler de cette machine à anesthésier la passion qu'est la télévision. Ainsi, dans la fiction, nous faisons taire le scandale de la passion d'exister. Et nous apprenons à apaiser, en contemplant des vies en série, les tourments de cette passion. Il faut bien comprendre cependant les impasses auxquelles nous conduit ce mode d'existence, qu'on peut appeler, avec le philosophe Søren Kierkegaard, le stade esthétique de l'existence. Une fois refermé le livre, la parenthèse enchantée du film ou de la comédie, que retrouvons-nous sinon les tourments de nos insupportables choix ? Tourments d'autant plus insupportables que nous les comparons désormais à ces modèles de vie que constituent les personnages de fiction qui nous ont un court instant divertis. Or, comparé à ces personnages, les vies des acteurs qui les jouent elles-mêmes ne sont que de pâles fantômes. En effet, ce à quoi parviennent tout au plus les acteurs, de par leur savoir-faire théâtral, c'est à oublier et à faire oublier un moment aux spectateurs, grâce au jeu de la comédie, la souffrance de leur existence. Citons ici Kierkegaard. Un acteur, surtout un acteur comique, peut aussi parfois souffrir dans l'existence, mais il ne s'approfondit pas dans la souffrance. Il cherche à en sortir et trouve du soulagement dans les changements de personnalité que favorise son art. Mener une vie d'esthète, c'est tout au plus forcer la fiction à jouer un rôle existentiel, nous apprend Kierkegaard. Cela est conforme au modèle romantique de notre époque, qui incite en permanence les individus à se faire un devoir de vivre leur vie comme on vivrait un roman. Cependant, un tel mode de vie n'est-il pas nocif, lui qui consiste à réduire la vie des individus à une somme d'instants d'exception, vécus comme des tranches d'instants de vie. Ce modèle romantique fait oublier qu'il n'y a d'existence authentique que dans le dur désir de durer, c'est-à-dire dans le temps, et non pas dans une somme d'instants. Instant découpant en tranches de vie, la vie elle-même. C'est maintenant seulement que nous pouvons commencer à comprendre le sens de l'attitude de se torturer l'esprit. Que vise en effet l'individu à travers cette attitude ? Sinon à se choisir soi-même durablement et en pleine conscience, en faisant usage de sa liberté. C'est en effet, au fond, cette liberté qui préside à tous ses choix. et qui est à la fois pour lui son plus grand désir et sa plus grande crainte. Nous nous torturons l'esprit pour apprendre à faire usage de cette liberté vertigineuse d'individu qui seule peut nous apprendre à vivre pleinement notre existence. Pleinement, c'est-à-dire durablement et non instantanément, dans un faux fuyant de modèles esthétiques. Certes, un tel usage de la liberté ne peut que susciter l'angoisse, en tant qu'il menace toujours de n'aboutir à aucune décision probante, de n'ouvrir que sur l'embarras de l'indécidable. Mais elle n'en reste pas moins une expérience d'authenticité passionnelle, beaucoup plus enrichissante que toutes les fictions de la littérature, du théâtre et du cinéma réunies. Se choisir dans la liberté, ce n'est pas en effet s'inventer des vies rêvées, où on jouerait faussement à se torturer l'esprit sur la scène d'un théâtre de comédie, en s'exclamant « Mais que diable allait-il faire dans cette galère ?» C'est tout au contraire oser se donner la conviction éthique que ce qui importe le plus dans l'existence est de ne pas se mentir sur ce que l'on est, sur ce que l'on fait, sur ce que l'on décide de devenir en le faisant. Cette conviction, elle implique nécessairement d'accepter, d'éprouver au moment de la décision et à chaque moment où nous sommes amenés à la confirmer ou à la récuser, ce que Kierkegaard considère comme l'angoisse vertigineuse de la liberté.
Le quart d'heure philo sur Jet FM par l'association Philosophia, tous les 1er et 3e mercredis du mois à 18h45, rediffusion les 2e et 4e vendredis.